Radio Okapi.
Les informations avec Gisèle Cage.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Okapi. Bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec l'actualité. On démarre tout de suite cette édition avec les grands titres de ce midi. Constant Mutamba devant la justice. Première audience publique à la Cour de cassation. L'ancien ministre de la Justice comparé pour détournement présumé des fonds publics. Dans ce journal, nous serons en ligne avec notre correspondant Jeff Ngoy en direct de la Cour pour suivre le déroulement de cette audience. Très attendu. Tchopo, le choléra progresse rapidement. 15 zones de santé déjà touchées. Depuis la déclaration officielle de l'épidémie le 7 juillet, près de 4000 cas et plus de 250 décès ont été enregistrés. Les autorités sanitaires pointent l'eau du fleuve et les aliments contaminés comme principale cause. Réforme électorale en RDC, un dialogue pour préparer l'avenir à Kananga. La CIMOCEL réunit les acteurs électoraux autour d'un dialogue multi-acteurs. Objectif, évaluer les recommandations issues du dernier scrutin en vue d'améliorer le prochain cycle électoral. Un entretien avec Luc Loutala, coordonnateur national de la CIMOCEL, à suivre en fin de cette édition. À la une ce mercredi à Kinshasa, l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, comparé pour la première fois en audience publique devant la Cour de cassation. Il est poursuivi pour détournement présumé de 19 millions de dollars, initialement destiné à la construction d'une prison à Kisangani dans la province de la Tchopo. Cette audience très attendue a débuté ce matin à 9h dans une salle placée sous haute surveillance, alors que les autorités judiciaires mettent en garde contre tout attroupement ou trouble à l'ordre public. Nous retrouvons à présent Jeff Ngoy en direct depuis la Cour des cassations. Alors Jeff Ngoy, vous êtes sur place où l'ancien ministre de la Justice doit répondre à cette convocation des justices. Ce procès a-t-il réellement commencé?
Bonjour Gisèle. Effectivement, le procès a débuté à 10h en l'absence du prévenu qui est venu trouver l'audience en cours vers 11h.
Alors, quelle est la situation en ce moment même?
Eh bien, le ministère public est en train d'exposer les faits pour lesquels il a déféré Mutamba devant la Cour. Tout a commencé par la comparution de ses avocats, qui ont d'abord sollicité une remise que la Cour a simplement rejetée, insistant sur la présence physique du prévenu. Car d'après la Cour, dans cette procédure pénale qui se déroule au premier et dernier degré, la présence du prévenu doit être démise.
Et c'est dans quelle ambiance que se tient ce procès tant attendu par l'opinion nationale?
Tout est calme dans la salle d'audience remplie d'un grand public qui suit l'exposé du ministère public. En dehors de la salle, plusieurs policiers sont déployés pour assurer la sécurité de la cour. Et il n'y a aucun débordement à signaler à ce stade. En dernière minute, la Cour de cassation vient d'accéder à la demande faite par la défense qui a voulu obtenir des juges une remise. Et les juges leur accordent une remise au 23 juillet prochain pour un débat contradictoire entre la défense et le ministère public. Le temps pour la défense aussi de s'imprégner des pièces du dossier, les compulser, car elle n'a pas eu le temps d'y accéder. L'audience vient d'être levée.
Merci beaucoup Jeff Ngoy pour toutes ces précisions en direct de la Cour de cassation. On vous retrouve très bientôt dans nos prochaines éditions pour la suite de ce dossier. Ce journal se poursuit sur Radio Okapi. Justice encore cette fois dans l'est du pays, au Nord Kivu. Le tribunal militaire de Boutembo a rendu son verdict. 24 militaires et un civil ont été condamnés pour des graves violations de droits humains, dont 13 cas de viol sur mineurs. Ces condamnations font suite aux audiences foraines organisées du 26 au 8 juillet à Lubero Centre, chef-lieu du territoire de Lubero. Une initiative soutenue par la MONUSCO à travers sa section d'appui à la justice et le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dans le but de renforcer la lutte contre l'impunité dans cette zone en proie au conflit. Les détails avec Martial Papi Moukeba.
Les 24 militaires et un civil ont été condamnés à des peines lourdes allant des 5 à 20 ans de servitude pénale principale, voire à la peine capitale. Ils devront aussi verser des amendes et dommages-intérêts pouvant atteindre 25 000 dollars américains. Ils étaient poursuivis pour violences sexuelles, meurtres et homicides, des faits survenus entre 2021 et 2024 dans la commune rurale de Lubero et ses environs. Maître Lydie Kake, avocate des victimes, exprime leur soulagement.
Ça a été un soulagement pour les victimes. Il y avait certaines qui pensaient que c'est déjà fini. On ne pouvait plus parler de leur sort en rapport avec les violations à leur égard. Les condamnés sont en train de purger leur peine à la prison centrale de Butembo. On veut voir maintenant les victimes obtenir réparation en rapport avec les préjudices qui leur ont été causés.
Ces audiences ont été rendues possibles grâce au soutien logistique et technique de la MONUSCO Beni à travers sa section d'appui à la justice, les bureaux congés des Nations Unies aux droits de l'homme ainsi que la section de protection de l'enfant. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
À Matadi, dans la province du Congo central, 3 présumés voleurs ont été lynchés puis brûlés vifs par la population. Ces actes de justice populaire se sont produits le 6 et 7 juillet respectivement au camp Palmier dans la commune de Mvunzi et près de l'hôpital général de Nkiamvu dans la commune de Nzanza. Face à cette montée inquiétante de violences extrajudiciaires, le maire de Matadi, Dominique Nkodia Mbete, hausse le ton. Il promet des sanctions sévère contre toute personne prise en flagrant délit de justice populaire. Il interpelle également les autorités judiciaires qui l'accusent de relâcher des individus pourtant dénoncés par la population sans explication claire. Dominique Nkodia Mbete s'exprime au micro de Nana Pluriche Mambou.
Nous n'encourageons pas notre population à se faire justice. Et quand nous disons chaque fois que la sécurité est l'affaire de nous tous, c'est vrai, mais ça signifie que lorsque nous trouvons une personne suspecte, nous la cheminons à la police pour des enquêtes appropriées et approfondies. Même si nous attrapons quelqu'un en flagrance, les mieux à faire, c'est de les maîtriser et l'amener auprès des services de sécurité. Mais se faire justice, ça nous disons non, 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 nous n'encourageons pas. Et nous allons sévir contre des personnes qui se font justice. Mais là également, nous devons attirer aussi l'attention de notre justice. Mais quand la population remarque ou constate que ce sont les mêmes personnes qu'on arrête plusieurs fois et qui sont libres, là, ça, la population commence à se poser beaucoup de questions. C'est pourquoi nous enregistrons des cas de justice populaire. Donc, à tous les niveaux, nous devons prendre des dispositions pour que cela cesse. À la population, nous disons plus question de se faire justice. À la justice également de jouer correctement son rôle pour ne pas tenter la population à se faire justice.
Province de la Tchopo pour parler santé. L'épidémie de choléra gagne du terrain sur le 23 zones de santé que compte la province. 15 signalent déjà des cas depuis la déclaration officielle de l'épidémie par le gouverneur le 7 juillet. 3939 cas ont été enregistrés, dont 254 décès, selon le docteur Bienvenu Ikomo, médecin chef de division provinciale de la santé. La situation est préoccupante. Il pointe du doigt la consommation d'eau du fleuve et d'aliments contaminés comme principale cause de la propagation. Mais il se veut rassurant, des mesures sont en cours pour contenir l'épidémie.
Parmi les 15 zones de santé affectées par l'épidémie de choléra, 3 zones urbaines de Kisangani y figurent, notamment les zones de santé de Kisangani-Makiso, Kabondo et Lubunga. A priori, le manque d'hygiène alimentaire est à l'origine de la propagation de cette maladie dans la Tchopo, affirme le docteur Bienvenu Ikomo, médecin chef de division provinciale de la santé.
Lorsqu'on prend de l'eau et des aliments qui sont contaminés, alors vous serez aussi contaminé. Et vous voyez, avec le fleuve, les gens sont en train de déféquer dans l'eau, dans la zone de santé de Wanyaro. J'ai vu comment est-ce que les gens sont en train de déféquer dans l'eau.
Depuis la déclaration de cette épidémie, les gouvernements provinciaux et ses partenaires techniques et financiers se mobilisent. À ce sujet, 3 zones de santé à haut risque vont bénéficier d'un appui en vaccin. Il s'agit des zones de santé des Lubunga, Opala et Wanyarukula.
Et c'est une vaccination qui va prendre presque toute la semaine. Ça veut dire que quelqu'un peut quitter le Wanyarukula. Il arrive à Kisangani aujourd'hui, il va rentrer demain, il va trouver le vaccin et on va le vacciner.
Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
C'est le reportage de Jacques Mukonkole depuis Kisangani. Le Conseil national de suivi de l'accord CINSA plaide pour le dialogue face à la crise multiforme que traverse le pays. Dans un communiqué reçu ce mercredi à Radio Okapi, l'institution appelle à des échanges inclusifs entre toutes les parties prenantes. Son président, Joseph Olengankoy, s'est dit prêt à dialoguer avec tous les acteurs concernés pour construire ensemble un chemin de sortie de crise. Les précisions avec Blaise Ndongala Mayanda.
Dans son communiqué, le Conseil national de suivi de l'accord recommande l'application effective des mesures de décrispation politique de manière réciproque, tant du côté de la rébellion que de celui du gouvernement. À cet effet, son président, Joseph Olengankoy, annonce le déplacement imminent d'une délégation du CENSA vers les villes de Goma et de Bukavu. Il sollicite du gouvernement la prise en charge de cette mission et appelle la MONUSCO à faciliter les transports de la délégation vers ces deux villes actuellement sous administration rebelle. Joseph Olengankoy déplore la perte de confiance entre Congolais, regrettant ainsi que les différents internes soient de plus en plus portés à l'international. Il estime que la solution au problème de la RDC doit impérativement passer par un dialogue national impliquant les gouvernements, l'opposition et la société civile. L'exposition de nos divergences internes aux États étrangers fragilise la confiance en nous-mêmes et réduit les capacités nationales à nous assumer, a-t-il déclaré. Pour Joseph Olengankoy, la force, l'efficacité, les échanges entre Congolais ne sont plus à démontrer, rappelant les dialogues entre Congolais de Sun City.
Parlons sécurité au Nord Kivu, regain de tension dans les territoires de Masisi. La situation reste très tendue ce mercredi dans le village des Kalungu et Kinyana, situé dans le groupement Bachali Mokoto au territoire de Masisi. Ces localités ont été le théâtre de violents affrontements toute la journée d'hier mardi. Le combat ont opposé le rebelle le AFC M23 aux combattants Nyatura de l'Alliance des nationalistes congolais pour la défense des droits humains, dirigée par Jean-Marie Bonané. Le point complet avec Ronelyn Timonera.
Après un renforcement de leur position en hommes et en matériel toute la semaine dernière, les rebelles de l'AFC M23 ont lancé depuis le matin d'hier mardi des attaques simultanées sur les positions de Wazalendo du groupe ANCDH dans la localité de Kalungu, disent nos sources dans la région. Selon ces sources, les hommes de Nanga et Sultani Makenga ont délogé momentanément les combattants VDP Nyatura commandés par Jean-Marie Bonané de leur position de Bufuhi qui, ajoute ces sources, auraient été complètement incendiés. Dans la soirée, les combattants de l'ANCDH sont revenus à la charge et auraient réussi à repousser cette attaque. En ce moment, les deux groupes continuent de renforcer leur position dans la zone. Des détonations d'armes lourdes et légères, jusqu'à tard dans la soirée d'hier, ont grandement paniqué la population civile. De nombreux habitants de Kalungu et Kinyana ont fui leurs milliers vers d'autres villages environnants. Les acteurs locaux déplorent cette situation qui intervient, alors que depuis plus d'un mois, des combats violents opposent presque chaque jour les rebelles du groupe AFC M23 aux combattants du groupe CMC de Dominique dans au moins quatre groupements de la chefferie voisine de Buito, territoire voisin de Rutshuru. Ce qui dégrade la situation humanitaire dans la zone malgré le pourparlers en cours à Doha et à Washington pour parvenir à une désescalade.
Au Kasaï oriental, en prélude aux élections municipales et locales, le CAFCO, cadre permanent des concertations des femmes congolaises, forme en ligne depuis deux jours les conseillers communaux de Mbujimayi, objectif les préparer à faire des choix éclairé lors de l'élection du maire, de son adjoint, des bourgmestres, de leurs adjoints ainsi que des conseillers urbains. Selon Gertrude Ndaya, coordinatrice provinciale du CAFCO, ces conseillers jouent aujourd'hui un rôle clé en tant que grands électeurs. Elle s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
Aujourd'hui, on a planché sur les systèmes électoraux en République démocratique du Congo. Ils ont vu aussi le module sur le contentieux électoral. Vous savez, CAFCO est en train d'insister sur la participation accrue des femmes dans les instances de prise de décision. Et les élections sont une opportunité justement pour que les femmes puissent aussi s'intéresser et être en mesure de compétir avec les hommes. Dans le contentieux électoral, CAFCO a mis à la disposition dans chaque province un collectif d'avocats qui sont à la disposition des femmes candidates au cas où elles souhaiteraient aller au contentieux pour un accompagnement de qualité.
Dans la province du Maniema, la nouvelle dynamique de la société civile a lancé ce mardi 8 juillet un nouveau projet baptisé Toulimé Kwetu. Comprenez, cultivons chez nous. Ce projet d'une durée de 3 mois sera mis en œuvre dans le secteur de Bayouyou, territoire de Kabambaré. Il porte sur la culture de maïs sur une superficie d'1 kilomètre. Le président provincial de la nouvelle société civile, maître Michel Kassonda, explique les objectifs de cette initiative au micro de Florence Kizalunga.
Nous allons nous focaliser aussi dans la pisciculture, l'agriculture. Et l'objectif qu'il y a de ce lancement de tous ces projets-là, c'est pour juste desservir la population du Maniema, pourquoi pas la population de la République démocratique du Congo. Et l'opportunité se présente, c'est-à-dire il y a la possibilité qu'on puisse cultiver ces champs à ce niveau-là et faire d'autres travaux qui puissent avoir l'intérêt vis-à-vis de la population. Et voilà pourquoi nous invitons les jeunes, tout celui qui s'appelle jeune, il doit s'en approprier de ces projets-là. Et une fois les projets parviennent à réussir, je pense que ça va aider tout le monde et tout le monde sera content et ça va desservir la population. Donc les jeunes doivent s'en approprier de ces projets, qu'ils abandonnent ce qu'ils sont en train de faire comme tuerie, comme massacre, pour qu'ils rejoignent l'agriculture, la pisciculture et tout ça, ça contribue pour le développement du Maniema et de la République démocratique du Congo.
Football Cannes féminine ce mercredi. Le groupe A entre en action dès 17h avec une affiche très attendue. La Zambie affronte le Sénégal tombeur de la RDC lors de la première journée. Les Léopards d'âmes de la RDC lourdement battus 4-0 par les Sénégalaises n'ont plus droit à l'erreur. Elles devront impérativement s'imposer face aux Lions de l'Atlas du Maroc à 20h pour espérer rester dans la course. Un point complet avec Vanessa Nkongolo.
Après la défaite humiliante de la première journée face au Sénégal, les Léopards vont prendre la revanche sur le Maroc, promet leur sélectionneur Hervé Appri.
Un état d'esprit de revanche et vraiment de se mettre dans les meilleures dispositions pour aborder ce match et se dire que ce match, nous, on va à tout prix le gagner. Il peut pas être autrement, puisque l'idée c'est de sortir de la poule et pour ça, il faut gagner.
La milieu de terrain congolaise Eva Soumo rassure quant à la détermination du groupe.
C'est vrai qu'après cette défaite, on était tous démoralisés, on va dire, parce que ça fait toujours mal de prendre 4-0 dans un premier match de la CAN. Après, on est toutes conscientes qu'on a loupé notre première mi-temps. On s'est créé plus d'occasions en deuxième mi-temps en montrant plus de détermination. Maintenant, on a aussi analysé nos erreurs et à nous de corriger ces erreurs face au Sénégal et de faire mieux face au Maroc.
Dans un message d'encouragement adressé au Léopard d'âme, la présidente du CONOR, Belinda Lutondila, demande aux filles, je cite, rachetez-vous et montrez votre vraie valeur face au Lion du Maroc. Fin des citations. Le coup d'envoi du match RDC-Maroc sera donné à 20h heure de Kinshasa, 21h heure de l'Est et du centre du pays.
Actualité internationale.
L'armée de l'air ukrainienne a affirmé ce mercredi que la Russie avait lancé dans la nuit sa plus grande attaque des drones et missiles depuis le début de l'invasion en 2022 dans un contexte d'intensification des frappes russes. L'armée russe a tiré 728 drones et 13 missiles selon l'armée de l'air ukrainienne qui a affirmé avoir intercepté 711 drones et détruit 7 missiles sans préciser les dégâts exacts causés par ces attaques.
L'invité.
Notre invité du jour est Luc Loutala, coordonnateur national de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections Simocel. Cette structure organise actuellement à Kananga un dialogue multi-acteurs autour des réformes électorales en République démocratique du Congo. Objectif, évaluer avec les parties prenantes les recommandations prioritaires issues des dernières élections en vue d'améliorer les prochains cycles électoraux. Dans cet entretien, Luc Loutala revient sur les grandes lignes de ses recommandations au micro de François Kadima.
Monsieur Luc Loutala, bonjour.
Bonjour.
Un dialogue multi-acteurs autour des réformes électorales. C'est quoi la nécessité actuellement? Parce que nous ne sommes pas pendant les élections, quoique nous attendons encore le reste du processus?
D'abord, nous sommes au troisième dialogue multi-acteurs. Après, deux autres qui ont été organisés respectivement au Congo central et dans la province de l'Équateur. Et ça, c'est un processus normal de consolidation des recommandations qui vont faire l'objet des réformes électorales auprès des sénateurs, députés, parce que vous savez que c'est ce qui va arriver très rapidement. On suppose que d'ici 2026, le processus des réformes électorales sera enclenché. Et en tant qu'une mission d'observation citoyenne, il est nécessaire pour la Simoncelle de soumettre les recommandations qui vont faire l'objet du plaidoyer à la censure des citoyens. Et ici, nous sommes pour soumettre les recommandations, en fait, aux différentes parties prenantes et voir comment elles le prennent et comment elles peuvent les reformuler.
Vous avez formulé certaines recommandations à la suite des élections et vous revenez pour suivre ces recommandations ou formuler d'autres. C'est quoi la démarche?
Nous avons observé les élections dans les 26 provinces. À l'issue de l'observation, il y a toujours des recommandations. Ces recommandations sont faites, en fait, dans le processus des recoupements des rapports, et il est important de venir encore consolider l'appropriation de ces recommandations auprès des parties prenantes et nous rassurer qu'elles sont conformes aux ressentis et aux besoins que ressentent les parties prenantes.
Facile de soumettre des recommandations aux élus du peuple et aussi voir ces recommandations être acceptées, parce que vous n'allez pas faire un processus pour lequel vous savez que par la suite vous allez être bloqué quelque part au niveau de l'organe délibérant, par exemple.
L'avantage se trouve à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que une fois que ce que vous faites exprime les besoins de la population, cela acquiert de la légitimité. Et donc, nous donnons plus de légitimité aux recommandations de nos plaidoyers. Le deuxième avantage est que ces recommandations nous ouvrent la voie à une bataille. Nous ne disons pas que la bataille est déjà gagnée. Amener à influencer les politiques, à prendre ce que vous soumettez, c'est déjà une victoire. Mais nous sommes prêts à nous battre pour cela.
Parce que nous parlons des recommandations, lesquelles ont été pertinentes ou sont pertinentes actuellement pour améliorer le prochain cycle électoral? Parce que vous dites qu'il y a eu des recommandations qui doivent être consolidées.
Il y a des recommandations qui appellent à la clarification des dispositions légales. Supposons ce qui concerne l'audit du fichier électoral, par exemple. Il est question de demander que ça soit légal, que ça ne dépende pas du bon vouloir de la CENI. Il y a des recommandations qui portent sur la clarification ou l'amélioration du cadre légal. Supposons la mise en place de l'équipe de la CENI. On a vu tout le cafouillage auquel cela a donné lieu. On demande aux législateurs de clarifier les termes. Évidemment, on a vu pendant les contentieux tout le trouble qu'il y a eu entre les différentes instances de gestion du contentieux. Tel juge dit ceci, l'autre va ceci, l'incompatibilité entre les décisions des juges et de la CENI. Et donc, nous avons en gros 18 recommandations prioritaires qui sont tirées des 36 recommandations qui ont découlé de l'observation. Et c'est ces 18 recommandations prioritaires que nous allons soumettre plus ou moins à la censure des parties prenantes. Question de nous assurer que formulation et le contenu de ces recommandations sont effectivement conformes à ce que ressentent les populations des différentes provinces. Le plus important, c'est que nous ayons une démarche dans laquelle nous, acteurs, la société civile, les autres acteurs, je crois que les dynamiques se mettent en place de manière très ordonnée, et la population. Le travail d'une mission citoyenne, c'est de s'assurer que le message qu'elle porte, c'est vraiment le message que la population lui a confié. Ça veut dire mener le plaidoyer.
Monsieur Luc Luntala, nous vous disons merci.
Merci à vous.
C'était Luc Loutala, coordonnateur national de la Simoncelle, la synergie des missions d'observation citoyenne des élections. Il s'exprimait au micro de François Kadima à l'occasion du dialogue multi-acteurs organisé à Kananga autour des réformes électorales en RDC. Et voilà, c'est la fin de ce journal sur Radio Capi. À la mise en onde, Billy Landry Betou, à la coordination Élisée Chikota et à la présentation, c'était Gisèle Cage. Ravi d'avoir été avec vous pour continuer à vivre l'expérience Radio Capi. Autrement, rejoignez-nous sur WhatsApp via les liens disponibles sur nos pages Facebook et X. Merci infiniment pour votre fidélité. On se retrouve prochainement, même fréquence, même énergie. D'ici là, prenez soin de vous et restez à l'écoute de votre radio.